Le journal Sébastien Legenis. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le plan du gouvernement pour limiter l'accès aux soins des étrangers. Il faudra par exemple attendre 3 mois pour qu'un demandeur d'asile puisse bénéficier d'une couverture maladie. Le point sur cette réforme en cours dans un instant. Nous irons aussi au Liban en pleine crise politique. Démission hier du Premier ministre, célébrée dans les rues par des manifestants qui toutefois restent mobilisés. Dans ce journal également, l'enquête parlementaire du Sénat autour de l'usine Lubrizol de Rouen avec, dans le viseur, on l'entendra, les consignes très floues des autorités le jour de l'incendie. La trêve hivernale J-2, un squat de Saint-Denis s'organise pour éviter l'expulsion et puis pour finir un documentaire passionnant sur le parcours incroyable de Chelsea Manning, cet ancien soldat américain devenu transgenre.
L'écrivain et journaliste Philippe Pujol qui publie La chute du monstre Marseille année zéro sera l'invité d'Alexandra Ben Saïd à 7h50.
France Inter.
La couverture maladie des étrangers va changer. Le gouvernement s'apprête à rendre ses arbitrages, Sébastien.
La question avait été soulevée au moment du débat sur l'immigration au Parlement. Y a-t-il une forme de tourisme médical chez certains demandeurs d'asile? L'aide médicale d'État pour les sans-papiers revient-elle trop chère? C'est ce que pense une partie de la majorité et du gouvernement. Un rapport des inspections générales des finances et des affaires sociales sera bientôt rendu. On en connaît déjà quelques contours. Principales mesures envisagées: instaurer un délai de carence de 3 mois avant qu'un demandeur d'asile puisse accéder à des soins. Et les précisions de Sébastien Sabiron.
Dès le dépôt de sa demande d'asile, un étranger peut bénéficier du remboursement des soins. Les abus sont difficiles à mesurer, mais le gouvernement considère que certains en profitent, notamment les ressortissants de pays dits sûrs comme l'Albanie ou la Géorgie. Dominique Da Silva, député LAREM du Val d'Oise.
Ce qu'on qualifie de tourisme médical, ce sont des étrangers qui viennent avec l'intention, non pas de demander l'asile, mais viennent dans un but de se faire soigner gratuitement. Les Français ne voient pas pourquoi, à travers des complémentaires santé, etc., ils auraient moins de gratuité à l'accès aux soins et que des ressortissants étrangers viendraient, j'allais dire, abuser de cet accès aux soins.
Cette carence de 3 mois s'applique déjà aux ressortissants français de retour de l'étranger qui voudraient bénéficier de la CMU. Pour Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile, le gouvernement se trompe de diagnostic.
Ça représente 0,5% des dépenses d'assurance maladie. C'est totalement marginal. Ce que nous constatons, c'est que, en l'occurrence, les demandeurs d'asile ne font pas le voyage pour bénéficier de l'aide médicale d'État. Ces histoires ne sont jamais documentées.
Autre piste envisagée pour les étrangers en situation irrégulière, certains soins seraient soumis à accord préalable de la Sécurité sociale. En revanche, le délai de carence ne s'appliquera pas aux soins urgents, aux mineurs et aux femmes enceintes.
Voilà, les soins soumis à une autorisation préalable de la Sécu dont parlait à l'instant Sébastien Sabiron sont en partie connus selon nos confrères de l'opinion. On parle notamment des prothèses de hanche ou de la chirurgie de la cataracte.
Direction maintenant le Liban, pays secoué par une crise politique après la démission de son premier ministre.
Démission de Saad Hariri après 13 jours de manifestations contre la corruption de la classe politique. Explosion de joie hier dans les rues de Beyrouth. Mais les manifestants restent très vigilants. Leur reportage de Chloé Doma.
Quelques heures après le discours de Saad Hariri, la capitale libanaise était en fête. Sono et musique à fond au carrefour de plusieurs quartiers. Des Libanais de tous les âges étaient réunis pour célébrer la chute du premier ministre. Mais pour Zena, une activiste de 63 ans, ce n'est pas assez.
Je pense que c'est un bon pas, une étape de gagner dans les revendications que réclame une grande partie du peuple. Mais ça ne suffit pas.
Depuis 2 semaines, les manifestants dénoncent la corruption de l'ensemble de la classe politique. Leur slogan, tous, ça veut dire tous.
La démission du gouvernement, ça ne veut pas dire la fin de nos problèmes. Qu'est-ce qui nous garantit que les mêmes ne vont pas revenir?
Mais dans un pays où cohabitent 18 confessions religieuses, le spectre de la violence communautaire n'est jamais loin.
Je ne suis pas très optimiste. Vous pouvez voir plein de gens ici, en apparence très ouverts, mais on vient tous d'un environnement différent. On entend des choses terrifiantes, il y a beaucoup de menaces.
Malgré les doutes, les manifestants sont déterminés à rester dans la rue jusqu'à la formation d'un gouvernement de technocrates. Beyrouth, Chloé Doma, France Inter.
La crise libanaise, on y revient avec la chronique de Pierre Aski à 8h17. En bref, toujours à l'étranger, deux semaines après l'offensive déclenchée par Ankara officiellement, il n'y a plus de forces kurdes à la frontière avec la Turquie en Syrie. Les Kurdes avaient jusqu'à cet après-midi, hier après-midi pour se retirer conformément à un accord signé sous l'égide de Moscou. Petite accalmie aujourd'hui sur le front des incendies en Californie, mais de courte durée car les vents devraient à nouveau souffler demain très fort jusqu'à 100 km/h. Retour en France maintenant avec cette enquête sur l'incendie Lubrizol confiée à des juges d'instruction. Trois juges du pôle santé de Paris ont été saisis hier pour des faits notamment de mise en danger de la vie d'autrui. Parallèlement à la procédure judiciaire, l'enquête parlementaire continue sur cet incendie avec des auditions au Sénat. Hier après-midi, les sénateurs ont notamment entendu un universitaire de Rouen qui a étudié la communication institutionnelle, les consignes données à la population et les mesures de précaution mise en place au moment et plusieurs jours après l'accident. Un exposé très critique, Sandy Dauphin.
Au moment de l'incendie de Lubrizol, les autorités ont donné des consignes à la population. Par exemple, éviter les déplacements non indispensables. Mais que veut dire indispensable ? Se rendre à son travail, à un rendez-vous médical, à un stage de formation. Arnaud Breneteau, maître de conférence en géographie politique à l'université de Rouen, a décortiqué ces consignes. Il les juge imprécises, voire incompréhensibles.
Quelle différence y a-t-il pour le public entre rester à l'intérieur, se mettre à l'abri ou se confiner? Je vous ai mis ici un extrait d'un document mis en ligne sur le site de la préfecture qui lui-même, vous le voyez, entretient la confusion puisqu'on nous décrit la mise à l'abri comme étant du confinement. Donc, évidemment, il s'agit de deux procédures distinctes.
Cet expert, auditionné par les sénateurs, note également que l'impact géographique de la catastrophe a été sous-estimé. La zone à protéger a d'abord concerné 12 communes avant de s'étendre.
Les critères qui ont présidé à la définition de ce périmètre me semblent à la fois obscurs et critiquables. On pouvait aisément anticiper que la pluie attendue en milieu de matinée allait coucher les substances véhiculées par le nuage sur l'ensemble de la zone couverte par le panache et non sur les seules 12 communes de l'arrêté.
Des incohérences relevées aussi sur le nettoyage des suies. Le 26 au soir, il est décidé pour les écoles de 12 communes. Ailleurs, le choix est laissé à l'appréciation du maire.
Sandy Dauphin, encore la grève à la SNCF aujourd'hui. Négociation au point mort et une nouvelle journée de pagaille en perspective avec toujours 3 TGV sur 10 sur les lignes atlantiques. Il faudra attendre demain pour un retour presque à la normale. 8 TGV sur 10 selon la SNCF. Les chiffres de la croissance au troisième trimestre viennent de tomber. Même rythme qu'auparavant, plus 0,3% selon l'INSEE. Croissance tirée essentiellement par la consommation des ménages.
7h38, la suite du journal et on en vient, Sébastien, à cette histoire de squat menacé d'expulsion.
Il s'appelle le Landy Sauvage. Situé à Saint-Denis, il est devenu l'un des principaux lieux autogérés en Île-de-France, accueillant artistes, alternatifs et migrants. Mais le propriétaire des lieux, l'établissement public foncier d'Île-de-France, a obtenu l'évacuation depuis un an et demi pour raison de sécurité. Alors à 2 jours de la trêve hivernale, les occupants craignent une expulsion soudaine et s'organisent pour faire face à une éventuelle intervention policière. Le reportage de Caroline Félix.
Dans la grande cuisine du Landy Sauvage, Clément est à l'atelier coupage de pain.
Parce que c'est une activité qui demande très peu de concentration et comme on a passé toute la nuit à construire des barricades, c'était une tâche très simple.
Pour se préparer à une opération policière, un tableau de roulement pour faire le guet accroché au mur et surveiller la venue d'éventuels CRS, Julien est circassien.
Beaucoup d'ascenseurs émotionnels ces derniers jours. On nous a dit c'est bon, vous êtes tranquille. Et 3 jours après, les flics étaient devant la porte et ils nous disaient qu'on n'était pas tranquille du tout. Et bon, on est tous un peu épuisés du coup moralement. Il y a des copains qui sont dans les squats depuis des années qui étaient au bord des larmes hier soir en voyant le nombre de gens qu'il y avait avec nous. C'est fort.
200 personnes mobilisées pour défendre ce lieu. À la fois espace artistique, salle de sport, atelier de réparation. Il accueille aussi 2 familles roumaines. Dino est arrivé il y a 1 an et demi avec ses enfants scolarisés juste à côté.
Je veux rester là et on va résister. Il y a des événements, il y a des activités pour tous les quartiers, pour tout le monde. Il y a la cantine. Les gens qui sont dans la rue.
Un des hangars sert d'espace de stockage à des associations d'aide aux sans-abri. Renaud est membre du collectif.
Vous expulser ici, ça serait juste payer très cher une boîte de gardiennage pour garder un bâtiment vide, alors que nous, on fournit un service énorme et on ne demande rien à la collectivité pour ça.
D'après lui, le propriétaire n'a pas prévu de projet avant 2024.
Un squat de travailleurs sans papiers, en revanche, a été expulsé à Montreuil. Hier, ces sans-papiers issus du foyer Barra avaient été relogés par le maire communiste de Montreuil lui-même dans un bâtiment vide de l'État. Mais la préfecture de Seine-Saint-Denis en a décidé autrement et a donc décidé de l'expulsion. Un malaise social en vue chez Engie. Engie qui taille dans ses centres d'appel en France. Le fournisseur d'énergie va en fermer plusieurs. 450 emplois seront supprimés. L'entreprise l'a annoncé hier soir au syndicat. C'est la fin prochaine des tarifs réglementés du gaz qui provoque cette nouvelle restructuration qui en suit une il y a déjà 3 ans. Grégoire Le Callot.
D'ici 2023, il n'y aura plus d'abonnement aux tarifs réglementés du gaz. Plus de 4 millions de foyers français y sont encore, mais ils sont contraires à la législation européenne et en mai dernier, la loi Pacte a programmé leur disparition. Or, sur les 9 centres d'appel d'Engie restant en France, sur 32 il y a quelques années, 7 sont chargés précisément de vendre ces tarifs réglementés. Ils vont donc soit fermer à Bagneux en région parisienne, Villeurbanne près de Lyon ou Toulouse, ou bien ils seront reversés dans la division grand public de l'ex-GDF Suez, à Quimper, La Baule, Annecy ou Montpellier. Au total, 450 emplois sont concernés. La direction assure qu'il n'y aura aucun licenciement et des reclassements seront proposés aux salariés, mais pas tous sur leur métier d'origine. FO, syndicat majoritaire, estime qu'il s'agit d'un plan de suppression d'emplois et dénonce une logique financière plus qu'industrielle. Le syndicat, qui évoque une catastrophe sociale, rappelle que le dernier plan de restructuration a vu disparaître 650 postes il y a seulement 3 ans et doute de la capacité de l'entreprise à assurer 450 reclassements de plus.
Et Grégoire Le Callot, il n'y aura pas de capteur de son dans les rues de Saint-Étienne. La ville a renoncé à son expérimentation après avoir reçu un avertissement de la CNIL. Le système consistait à faire intervenir les forces de police plus vite en détectant des cris et des bruits de vitres cassées. Un projet qualifié de liberticide par ses opposants.
Et cinéma, pour terminer, un documentaire sur Chelsea Manning.
Chelsea Manning, anciennement Bradley Manning, cet ex-soldat américain qui en 2010 a divulgué sur Wikileaks les exactions de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. En 2017, Barack Obama avait commué sa peine de 35 ans de prison en 8 ans. Bradley est alors devenu Chelsea, revendiquant ainsi son identité transgenre. Un portrait d'autant plus d'actualité que Chelsea Manning est à nouveau incarcérée. Jacqueline Pétrose.
De l'enfant à la militante, la vie de Chelsea Manning n'est que constat de violence et le prix de sa liberté est exorbitant. Chelsea s'appelle encore Bradley quand, analyste militaire à Bagdad, elle découvre des images de soldats américains tuant 12 civils, dont 2 journalistes de Reuters. Profondément choquée, elle confie ce film et 750 000 autres documents à Wikileaks. Le scandale est énorme.
Mon boulot était très intense. C'est moi qui créais les cartes qui disaient où aller. Il disait que c'était des frappes chirurgicales, mais non, c'était un vrai bordel. J'assumais pas.
Dénoncée, arrêtée, mise à l'isolement, jugée, elle est emprisonnée avec des hommes malgré sa transidentité. Tournée souvent en caméra à l'épaule, multipliant les gros plans, Tim Travers Hawkins ne juge pas. Au long des témoignages et des reportages, on découvre une personnalité charismatique, fragile, mais déterminée. Toute sa vie, Chelsea devra désormais regarder par-dessus son épaule. Aujourd'hui, fidèle à ses idéaux, elle refuse de témoigner contre Wikileaks et depuis mars 2019, elle est accusée d'entrave à la justice.
Ça ne s'arrêtera jamais, ils ne s'arrêteront pas si on ne les arrête pas.
Ce qui lui reste, le combat.
Le combat et le portrait de Chelsea Manning à lire également sur franceinter.fr. Le documentaire XY Chelsea de Tim Travers Hawkins sort en salle aujourd'hui. Puis une dernière information, Ali, comme je sais que vous êtes un grand fan de Game of Thrones. Thrones, je le prononce très mal.
C'est vrai.
J'aime bien aussi. Sachez que la chaîne HBO s'apprête à sortir une nouvelle série dans le même univers. Ça s'appelle House of the Dragon. Je le prononce un peu mieux, mais c'est pas ça quand même. Et ça se passera 300 ans avant. Ça racontera l'histoire d'un des clans de la série médiévale et fantastique.
L'essentiel, c'est que c'est une bonne nouvelle. Merci voilà. Sébastien Legénie.